Hashtag 2050 le podcast, c'est chaque semaine votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Est-ce que, comme moi, il existe des morceaux de musique que vous êtes capable d'écouter 5-6 fois d'affilée avec toujours autant de plaisir? Eh bien, c'est le cas avec le morceau que je vous ai proposé pour accompagner le vœu de Rudy Pignolo-Malaper la semaine dernière. Le groupe s'appelle Reisiger, l'album s'appelle Our Kodo, il date de 1999 et j'avais choisi le morceau éponyme Our Kodo que je peux écouter notamment lorsque je roule la nuit. Par exemple, je rentre de Paris, j'ai 1h30 de route devant moi, je pourrais être fatigué, je l'écoute, ça me fait un bien fou. Ce qui me fait aussi un bien fou, ben justement, vous le savez, c'est d'imaginer le monde de demain. Et mon ambition, c'est vraiment de se dire que la prospective, c'est pas qu'une chose d'expert. Alors j'essaye voilà, de lui donner une couleur simple et humaine avec ce podcast. Et puis, il y a une personne que j'ai le plaisir de vous présenter, qui s'appelle Jennifer Murzo, qui elle aussi est habitée par cette même envie. Et cette envie, elle l'a transformée en un roman qui s'appelle La Désobéissante. C'est un roman qui interroge nos rapports au monde, nos rapports aux gens, à la nature, à la ville, au travail. Êtes-vous bien installé, confortablement, au calme? Oui? Alors suivez-moi, je vous emmène. Le futur commence ici et maintenant. Bonjour Jennifer.
Bonjour Rebecca.
Merci de me recevoir chez toi. Nous sommes sur un petit balcon avec une vue imprenable sur les toits de Paris. C'était une journée caniculaire, mais ici on a de l'air, on est plutôt bien.
Ouais, on est presque bien.
Et de l'air, c'est pas mal. À Paris, je crois qu'il y a un peu de pollution quand même.
Un peu trop, ouais.
Et ça fait justement le lien avec le thème de cet épisode du podcast, puisque nous allons parler de ton livre, La Désobéissante, paru aux éditions Robert Laffont en janvier dernier. Un roman qui se passe en 2050. C'est ton troisième roman après Les Grimaces et Il bouge encore. Et alors, La Désobéissante se passe en 2050. Pourquoi avoir choisi cette échéance?
Alors, La Désobéissante, déjà, il y a trois moments, trois temporalités. La première, c'est se passe aujourd'hui. C'est l'histoire de Jeanne qui fait un burn-out en 2015. Mmh. Et puis ensuite, c'était une histoire de filiation. Donc ensuite, on retrouvait sa fille, puis la fille de sa fille. Ouais. Et au début, j'avais inscrit, et le gros du roman, évidemment, se passe, c'est l'histoire de la fille de Jeanne. Ouais. En fait, Jeanne, c'est un prologue. Ensuite, il y a le roman et ensuite l'épilogue, c'est la fille de l'héroïne. Et du coup, au début, j'avais inscrit mon histoire en 2100. Parce que tout ce que j'imaginais me paraissait hyper, enfin tellement inquiétant que ça me paraissait assez loin dans l'avenir, etc. Et puis plus j'avançais dans mes recherches, parce que ce livre c'est aussi un travail de recherche sur la prospective, sur l'état du monde, sur l'état des avancées technologiques, etc. Plus j'avançais dans ces recherches, plus je réalisais qu'en fait c'était demain, en fait. Ce que je décrivais, c'était pas si loin que ça. Et que même il y avait des prédictions qui disaient que c'était même à plus court terme. Et donc je me suis dit, bon bah peut-être que 2050 est plausible. En termes d'échéance. Et puis j'aimais bien parce que ça paraît à la fois lointain quand on voit écrit 2050, parce que par exemple Blade Runner, c'est Blade Runner 2049, ça paraît hyper lointain, alors, et en même temps ça paraît très proche. Et c'était toute l'ambition de ce livre, c'était de décrire un univers qui soit à la fois très proche du nôtre et à la fois très... très lointain et donc très inquiétant. Et j'aimais bien jouer sur cette tension entre une espèce d'inquiétante étrangeté de « Ah, mais c'est affreux, non, ça peut pas être nous », et en même temps « Ah, mais en fait, ça ressemble quand même vachement, il y a un continuum, et en fait, oui, si, c'est demain.
Ouais. »
Toute l'idée, c'était vraiment d'exciter le lecteur pour qu'il se dise « En fait, tout est encore possible, on est à la croisée des chemins, on peut changer de cap, mais le pire, peut se produire assez rapidement. Donc il faut se mobiliser maintenant.
Alors donc l'essentiel du livre se passe à Paris. On ne va pas parler d'où se passe la suite pour ne pas déflorer trop l'histoire, mais c'est vrai que c'est un Paris pollué, c'est un Paris où la publicité a envahi le moindre interstice de la vie de ses habitants. Alors j'avais en tête le mot apocalyptique, mais finalement c'est pas vraiment ça, c'est vraiment voilà, tous les travers de la société actuelle poussés finalement, exactement, comme tu dis, ouais, un peu plus loin.
Ouais, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que, évidemment, il est beaucoup plus doux et génial, parce que c'est génial à plein d'égards de vivre à Paris aujourd'hui, que dans le monde que je décris là. Cependant, moi, l'agression publicitaire, je la vis au quotidien. Les pics de pollution à répétition, c'est atroce. Il se trouve que j'ai maintenant une petite fille qui a 2 ans et que le fait de s'être reproduite et d'avoir cette petite créature qui n'a rien demandé, qui est de moins en moins fragile, mais qui m'apparaissait comme quelque chose de très, très fragile au début, ça a vachement exacerbé tous les travers de la ville et je l'ai d'un coup trouvée assez violente, quoi, à plein d'égards. C'est-à-dire, y a des violences... voilà, qui sont l'apanage des grands centres urbains, etc. Mais la violence symbolique, la violence de cette densité un peu hostile, du fait qu'on ne se parle pas, que chacun est dans son truc, qu'il y a des frictions, qu'il fait trop chaud.
Oui, la minéralité aussi, voilà, de l'espace.
Bah, quelque chose, oui, de pas très chaleureux, quoi, ouais. De pas très réconfortant, en fait. De pas très confortable, voilà. De pas très confortable. Et le matraquage publicitaire, là, il est poussé à son paroxysme. En plus, c'est vraiment on est sur du numérique, etc. Donc, c'est encore plus agressif visuellement, parce que là on a encore des affiches 4x3 qui sont chiantes mais qui sont sur du papier, donc ça agresse un peu moins l'œil, même s'il y a de plus en plus, des pubs effectivement mouvantes, mais et effectivement il y a de plus en plus d'écrans, mais là il y a que ça, et donc du coup c'est carrément insoutenable dans le livre. Mais pour autant, j'ai rien inventé. En fait, dans ce livre, je n'ai la prétention d'avoir rien inventé, et même je le revendique, parce que je pense que c'est ce qui fait sa force, c'est que j'invente rien, je tire un tout petit peu les travers, effectivement, pour qu'ils apparaissent avec plus de force.
J'aimerais revenir sur cette question de filiation aussi, parce que ça me paraît important. Depuis des années, on parle des générations futures. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'on parle de la génération future, mais la génération précédente, elle est encore là. Et le traumatisme de ce que représente la mère, en fait, dans le livre, c'est aussi, enfin, en tout cas, moi, je l'ai pris comme ça, comme une symbolique d'un traumatisme qui s'est transmis et qu'après, on se dit, ben voilà, pour la génération suivante, comment on fait.
Et pour autant, c'est un livre que j'ai voulu, même si ça, peut-être ça saute pas aux yeux de prime abord, mais c'est un livre que je veux absolument optimiste. J'ai pas du tout voulu écrire un truc alarmiste, anxiogène. Moi, je trouve qu'il y a rien de plus chiant et contre-productif que ces gens qui nous expliquent qu'on va tous crever et qu'on est damnés et que c'est terrible. Je crois au contraire qu'on vit une période assez exaltante, en ce que justement on est à la croisée des chemins, comme je le disais tout à l'heure, et que de fait, ouais, il y a du pain sur la planche et on n'est pas aidé par un certain nombre d'acteurs qui ont beaucoup de pouvoir et qui freinent des cas de fer pour vraiment changer un peu la donne. Pour autant, on est de plus en plus nombreux à se réveiller un petit peu et à se poser la question, non seulement de demain, mais d'aujourd'hui, parce que je crois qu'il y a une réelle insatisfaction qui commence à gangréner un peu toutes les sociétés, occidentales, pas occidentales. Enfin voilà, la globalisation est là et fait en sorte que c'est pas le ravissement qui domine. Et ça l'a jamais été, mais là, le réchauffement climatique rend les choses encore plus tendues et encore plus dangereuses et tout ça. Et donc la question des générations futures, là, dans ce livre, elle ne se pose pas comme une espèce d'abstraction qui est un peu emmerdante, parce que, bon, oui, les générations futures, mais c'est abstrait, on ne sait pas.
Qui
sont ces gens qui n'existent même pas encore. Là, j'aimais bien qu'il y ait 3 générations qui se côtoient, même si elles ne se côtoient pas dans les faits, elles se côtoient aux yeux du lecteur, et donc lui, il peut se faire une idée de ce que c'est qu'une filiation, que de ce que son transmet, etc. Et donc se demander... en fait, au-delà de ce qu'il veut donner aux générations futures, quel présent il a envie de se forger pour lui, quoi.
Exactement. Et puis, c'est aussi l'histoire de quelques personnages, de personnes qui arrivent à s'extraire de l'urgence du présent pour reconstruire une vision d'un futur. Alors là, j'étais forcément contente, parce que c'est aussi l'ambition du podcast, de dire, voilà, on est dans un hyper présent, et d'un coup, voilà, on sort la tête de l'eau ou du guidon, peu importe, et on essaye de reconstruire une vision, voilà, donc c'est vrai que c'est forcément...
Mais c'est un défi, hein, et ça, c'est un sujet qui est assez transversal dans mes livres, le fait que c'est un défi de se défaire de l'aliénation à l'œuvre dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'elle est très, très insidieuse pour tout le monde. Parce que tout le monde est dans le travail et dans la consommation, qu'on le veuille ou non, c'est quand même deux piliers qui sont difficilement contournables. Et c'est pas impossible, mais quand on le fait, ça demande vraiment une réflexion qui est un luxe, parce que c'est ce culte de l'immédiateté, ce flux d'informations incessants, cette rapidité à l'œuvre aujourd'hui dans l'espace et puis dans l'espace mental, ça fait que c'est vraiment difficile de prendre deux minutes pour réfléchir. Exactement. Et c'est tout l'enjeu, et c'est tout le défi, et c'est tout ce qui est, à mon sens, très excitant.
Mmh. Alors, tu le disais, ce livre, c'est le fruit de recherches que tu as menées. Il y a de nombreuses, quand même, études de prospective, enfin, moi, j'en vois beaucoup passer. Alors, tu es journaliste, donc tu étais habituée sans doute à ce travail, à farfouiller, à trouver. Et ce travail de recherche, est-ce que tu as trouvé ça, est-ce que ça t'a donné une vision encore peut-être plus pessimiste, ou finalement, en même temps que tu cherchais tout ça, tu as aussi trouvé plein d'autres choses
Les deux, parce que en fait, une chose que je me suis dite effectivement, que j'ai réalisé, c'est qu'au cours de l'écriture, quand j'avais l'impression vraiment de charger la mule et d'écrire des trucs atroces, on va avoir l'impression que c'est atroce, c'est pas du tout un livre atroce, hein, mais de décrire un réel dystopique un peu corsé, et ben le lendemain, il y avait une news qui tombait, et en fait, le réel topait ce que moi j'avais inventé. Alors effectivement, il y avait une escalade de l'horreur un petit peu dans ce que je découvrais de l'état du monde. Et dans le même temps, il y avait le fait que toutes les solutions existent déjà, mais ça, je le savais déjà. Et parce que je m'intéresse beaucoup, je pratique ce qu'on appelle le journalisme de solutions. Moi, je m'intéresse à ce qu'on peut faire pour changer de paradigme, pour résoudre les innombrables défis qui sont les nôtres aujourd'hui pour que cette pauvre planète réussisse encore à nous abriter quelque temps. C'est l'enjeu. Et il y a plein de trucs. Et donc, c'est assez exaltant, d'une part, de voir que ces choses existent. Mais moi, en fait, ce qui m'a le plus plu et qui fait que je ne baisse pas du tout les bras, et que c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un enfant, parce que je l'ai fait en mon âme et conscience, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent ces solutions à bras-le-corps, qui se bougent le cul, qui sont de la jeune génération, qui sont des trentenaires ou même des vingtenaires. Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient 10-15 ans de moins. J'ai 32 ans, qui avait une toute petite vingtaine. Et je me dis, moi, alors là, j'étais pas du tout aussi dégourdie que ça. Et qui avait une idée du monde hyper précise et qui savait, qui avait des idéaux pas du tout hurluberlu, hippie, on fume des joints et puis peace and love. Enfin, je crache pas sur les beatniks et la vague hippie, mais disons qu'ils étaient à la fois.
Une conscience, en fait.
Ils étaient à la fois idéalistes, comme ont pu l'être les hippies, et en même temps, ils étaient super ancrés dans un réel sur lequel ils étaient absolument lucides. Et donc ça donnait une espèce d'approche qui était très pragmatique et en même temps sans concession, qui disait il n'y a pas de raison que l'avenir qu'on nous propose soit aussi à chier, on peut faire mieux et voilà comment on va s'y prendre. Et donc comment on s'y prend, en revoyant évidemment son rapport à la consommation, en prenant très au sérieux les low-tech, mais low-tech ça veut aussi dire non seulement il faut que les moyens de production soient moins énergivores, etc. Mais il faut que nos modes de vie soient moins énergivores, etc. Ça n'est pas forcément une punition parce que telle et telle chose. Et donc, d'un coup, c'est toute une philosophie de vie qui se dégageait et qui était super réjouissante. Et ça me plaît. Ça, je me dis... en fait, non seulement ça me plaît, mais ça me rassure parce qu'on se sent moins seul quand on découvre qu'il y a toute une communauté qui est absolument internationale, qui se joue...
Qui est partout. Elle est en ville, elle est à la campagne, dans le périurbain...
Exactement, et qui se joue aussi dans des pays... L'Inde, par exemple, est hyper bonne sur les low-tech, etc. parce que parfois, ils manquent de moyens et donc, du coup, ils ont déployé une science des low-tech qui est assez admirable. Donc, ça se joue dans les pays occidentaux développés, machin, super consumériste truc, mais aussi dans d'autres pays. Donc, c'est une effervescence qui est vraiment internationale et qui touche un peu toutes les catégories socioprofessionnelles. Enfin, d'un coup, j'avais l'impression que, en ce sens, c'était rassurant parce que ça essaimait. Alors, c'est pas encore un mouvement super massif, mais ça essaime par petites touches. Et je crois vachement à cette petite révolution silencieuse par petits pointillement comme ça.
Alors justement, toi qui es journaliste, est-ce que tu... Alors, je suis d'accord avec toi, les initiatives pullulent, s'aiment, se pollinisent, mais est-ce que tu as le sentiment que les médias, justement, sentent cette chose-là?
Pas
ou
du
ça
tout.
Reste
Ils
uniquement
sont complètement
dans
à côté de la plaque.
Positifs, on parlait de Oui Demain.
Ah oui, alors, ces médias-là, oui, ces médias-là, enfin moi je travaille pour eux.
C'est leur choix, c'est un choix éditorial.
Bah, bien sûr, voilà, mais c'est leur ligne, et mais moi j'adore Ouzbek Erika et Oui Demain, et j'ai la chance d'écrire pour eux régulièrement, et c'est un privilège. Moi je suis fière de ça parce que c'est vraiment des très bonnes publications. Après, les médias mainstream, alors ils vont faire un truc de temps en temps parce qu'ils sentent qu'il y a une petite tendance, alors, et puis en plus ils confondent un peu tout, l'économie collaborative, c'est pas clair, ça revêt tout un tas de trucs et qui sont plus ou moins propres, et parfois j'écoute des interviews par exemple notamment sur la question du climat, de la désobéissance civile, de trucs comme ça, et je découvre que les mecs sont hyper à côté de la plaque. Et à chaque fois, ça me frappe vachement parce que, en plus, souvent, ce sont des jeunes. Donc, moi, je me dis que quand on a 35 ans et qu'on est journaliste, on est censé être un peu au courant et tout. Et très souvent, ils sont pas négatifs, ils sont pas condescendants, ils sont plutôt curieux, mais ils sont super à côté de la plaque. Mais c'est déjà bien qu'ils en parlent, les rares qui le font. Mais à chaque fois, je suis étonnée de voir qu'ils découvrent des trucs et tout, alors que ça devrait être le fer de lance du journaliste aujourd'hui, de dire, si on veut vraiment avoir un impact sur la société, il faut que ces choses-là se sachent, etc. Mais je leur jette pas la pierre, parce que je pense que... Enfin, c'est un secret pour personne. La presse est complètement phagocytée par un actionnariat qui n'a pas du tout intérêt à ce que ces petites choses réjouissantes et qui œuvrent pour le bien commun se fassent jour significativement.
Voilà, et puis pour l'autonomie, la souveraineté.
Bah, c'est ça. C'est bien que tout le monde soit bien docile et puis consomme un peu comme des agneaux et tout ça. Donc c'est pas surprenant, et je jette pas complètement la pierre aux journalistes. Je dis pas que c'est des salopards. Je dis que très souvent ils ont les pieds moins liés et qu'ils font, ils sont dans l'urgence et ils travaillent dans des circonstances qui sont pas toujours très joyeuse et tout ça. Donc je leur jette pas la pierre, mais si la question c'est est-ce que les médias se font l'écho de ces trucs-là, absolument pas. Enfin, à l'exception de quelques-uns qui en ont fait effectivement une ligne éditoriale, ça rame quoi. Et moi, il y a un truc qui me choque vachement, souvent quand je regarde le 20h, ce qui m'arrive, de France 2, ça me choque énormément à chaque fois quand on parle des incendies ou des éboulements ou des coulées de boue, etc. en Colombie, ou de tout un tas de catastrophes climatiques. À aucun moment on fait le lien avec le réchauffement, avec le dérèglement climatique. À chaque fois ça me dit ça. Ah ouais, machin, il y a du feu, il y a des inondations, il fait chaud, il fait froid, mais ça reste météorologique. Et à aucun moment on te dit, bon, alors voilà, en fait on en est là, et donc statistiquement ça donne ça, il y en a de plus en plus. Parfois, il y a la nana de la météo qui va venir te faire une petite mise en perspective, machin, mais ça reste super timide, alors que ça devrait être un travail de fond, de pédagogie, de dire, bon voilà, on en est là, pourquoi? Ce qui est dingue, de l'ironie du sort, c'est ce connard de Trump là qui fait n'importe quoi avec les accords de Paris, etc., et qui vient de se taper le Texas, un cyclone de leur vie, etc. Donc c'est dommage que ce soit pas plus pédagogique, plus didactique, parce que ça permettrait de mettre en branle les choses plus rapidement.
C'est ça, d'éveiller plus conscience. Alors j'aimerais qu'on rentre un peu dans le livre.
Rentrons dans le livre.
Avec quelques thématiques qui m'ont vraiment plu et interpellé. La première, c'est la question du rapport à l'espace public. Je vais lire deux phrases, la première, page 42, je vous dis tout. Mais cela fait bien longtemps que les espaces publics interdisent toute station immobile. Et un peu plus loin, page 84, donc c'est un humanoïde qui est en interaction avec l'héroïne Bulle, et qui précise, il rappelle à Bulle son devoir de circuler. Et ça m'a vraiment beaucoup plu et touché, parce que dans notre rapport, si on prend la res publica, la chose publique, l'espace public, c'est là que se joue le sens de notre société. Est-ce qu'on est là pour se croiser, pour parler? C'est quelque chose d'important pour toi, cette question?
Ah oui, bien sûr. Mais je crois que parmi les grands enjeux de ce siècle, l'un des principaux, c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble, qui est devenu un terme fourre-tout, qui est un peu lénifiant, qui ne veut pas dire grand-chose, et qui, pour autant, si on réfléchit deux secondes aussi, en fait, c'est tout l'enjeu. Parce que le terrorisme et blablabla, c'est dû au fait que c'est quand même des sociétés très polarisées, où il y a une grande misère. Je ne suis pas du tout en train de légitimer ou de justifier le terrorisme, hein, c'est absolument pas le cas. Mais Il y a une espèce de polarisation de la société qui fait que tout le monde se regarde un peu en chien de faïence, on ne sait pas trop, machin. Et c'est vrai que les espaces publics, moi, ça me fascine toujours. Il y a de moins en moins de bancs à Paris. Mm-hmm. Avant, il y avait des bancs publics. Il y avait des chansons de Brassens qui disaient la beauté des bancs publics. Et voilà, là, il n'y a plus de bancs. Ou parfois, quand il y en a, j'ai vu, ils les découpent. Ils font des petits trucs comme ça où c'est individuel. Pour que les clochards, surtout, ne viennent pas polluer notre bel espace public. C'est pareil. Dans le métro. Et donc, tout est fait pour qu'on ne s'approprie pas cet espace public et pour qu'on trace. Et j'ai l'impression que prétendre ensuite, dans de beaux discours bien lisses d'hommes politiques, que le vivre ensemble, voilà, c'est notre défi à tous, etc., c'est d'une hypocrisie sans nom. Parce que si vraiment on veut que cette société fasse sens et que les gens se rencontrent et que ça crée une vraie dynamique de groupe, et Dieu sait si ça peut venir avec plein d'initiatives chouettes, et ben il faut que les gens ne se sentent pas coupables de rester dans la rue. Que rester dans la rue, ça ne veut pas dire squatter et dégrader. Non, ça peut vouloir dire être bien.
Et puis
être,
la rue, enfin, l'espace public, c'est l'agora.
On peut discuter, effectivement, on peut débattre.
Et puis quand on voit, quand il y a des mouvements citoyens, eh bien, où les choses se passent sur les places, que ce soit le mouvement Occupy qu'il a pu avoir, Nuit Debout, les Printemps Arabes, c'est sur les places que les gens se retrouvent et revendiquent une parole ou en tout cas une présence politique. Et c'est vrai que voilà, ne plus être à l'espace public mais uniquement le traverser, c'est couper de la politique qui vit entre les gens dans l'espace. Quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça génial.
Oui, je suis assez géniale, Rebecca, c'est vrai.
Non mais je te jure, vraiment, ce truc-là, merci. Je dis, c'est hyper fort. Et en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça apparaisse comme ça. Enfin, c'est pas martelé avec un truc.
Mais je me suis inspirée beaucoup de choses ou de gens qui m'inspiraient. Et moi, j'ai mon amie d'enfance, Juliette, pour ne pas la nommer, a travaillé beaucoup dans ce que je crois qu'elle appelait, elle travaille toujours là-dedans, d'ailleurs, l'urbanisme social. Ouais. Et en fait, elle créait des espèces de dispositifs, alors à chaque fois en plus avec une vraie approche écologique où il ne s'agit pas d'utiliser des matériaux qui viennent de je ne sais pas où, il s'agissait vraiment d'être dans une démarche aussi low-tech et tout ça. Et donc elle créait des espaces où les populations étaient amenées à se rencontrer. Elle travaillait beaucoup sur des quartiers très mixtes à Paris, et notamment le quartier du Buisson Saint-Louis, qui est à la fois super bobo et en même temps il y a des populations moins aisées, etc. Et tout ce beau monde, ma foi, cohabitait plus ou moins, mais quand les gosses jouaient dans la rue, c'était un peu synonyme de nuisance et tout. D'un coup, ils ont mis un espace commun pour tous ces gens-là, sous la forme de bancs, sous la forme d'événements aussi, de soupes un peu rigolotes avec de la musique et tout ça. Et ça fonctionne. C'est ça qui est fou, quoi. C'est que les gens sont contents, ça fonctionne. C'est pas du tout béni oui-oui, bien pensant, je sais pas quoi. Les gens sont contents, quoi, de se dire, de savoir comment s'appelle le petit gars qui fait du bruit avec son ballon, et il est moins chiant quand il fait du bruit avec son ballon et qu'on sait comment il s'appelle.
Exactement.
Quoi.
Dès que la personne devient une personne et plus juste
une nuisance.
Un autre. Quoi.
Et donc, je dois ce genre de truc, je dois ça à plein de gens qui font dans le concret des choses bien pour que la société soit plus intelligente. Quoi.
Autre thème qui m'a beaucoup plu, la question de la langue et du vocabulaire. Donc là aussi, deux petites citations, deux phrases très courtes. Page 108. Bulle parle de avec Ernest, son homme de campagne. Haha, la campagne, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce mot. Ça se dit encore ? Encore faudrait-il que ça désigne quelque chose. Et puis un peu plus loin, page 251, je tourne les pages. C'est une journaliste qui parle d'un événement horrible qui vient de se passer. Et tu écris dans un français encore plus pauvre. Et là aussi, je trouve ça hyper important parce que notre capacité aussi à nommer les choses, avoir de la nuance.
Ouais. Mais c'est un pouvoir inestimable. Ouais. Le pouvoir des mots, il est extraordinaire. Et c'est vrai que quand une langue s'appauvrit vraiment, après c'est les 9 langues, etc., que Corwell a si bien. Il a très bien décrit comment le fait d'être dépossédé d'une langue et de ses nuances, dégradait l'esprit, quoi. Et en l'occurrence, dans un français encore plus pauvre, là, cette scène, en fait, la journaliste est vraiment a l'air d'une demeurée, quoi. Aujourd'hui, on se dirait, mais elle est débile. Enfin, elle se répète et tout ça parce qu'elle a pas de vocabulaire pour s'exprimer. Et c'est vrai que ça aussi, on n'en est pas là, évidemment, mais parfois, j'ai l'impression que on a une langue extraordinairement riche. Moi, j'ai fait des études de lettres et tout ça, du coup, j'ai adoré étudier. J'ai eu quelques petites notions de linguistique et de grammaire, etc. Et on a une langue super riche. Et c'est vraiment, effectivement, un pouvoir extraordinaire que de la manier, et ça permet d'appréhender le monde de manière effectivement plus nuancée, de ne pas catégoriser les choses trop rapidement, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et ça, c'est tout à fait essentiel, et c'est pour ça que moi je crois beaucoup, je suis persuadée, en fait, je sais que c'est l'éducation, quoi. Moi je crois à l'éducation, je pense que tout le monde, et ça devrait être un droit inaliénable, et ça il ne faut pas que ce soit juste une théorie que tout le monde naît libre et égaux en droit et machin, il faut que tout le monde reçoive une éducation digne de ce nom, puisse étudier dans des conditions favorables à l'appréhension et à l'absorption de toute la complexité, mais au sens noble du terme, de notre langue et de ce que revêtent des concepts linguistiques, philosophiques et tout ça. C'est...
Moi, je me souviens d'un truc qui m'avait marqué, c'est il y a quelques années, j'avais découvert que, moi, quand j'étais petite, j'ai lu pas mal de livres de la Bibliothèque Rose. Et j'ai appris et j'ai pu voir que les bouquins étaient réécrits avec un langage simplifié. Ouais. Je me disais, mais...
Très juste. Bah, c'est une excellente illustration, effectivement. Pourquoi on prend les enfants pour des cons ? En plus, ce qui est extraordinaire, c'est que... Alors, j'ai lu ça parce que moi, je m'intéresse beaucoup à la pédagogie Montessori et j'ai lu ça dans le livre de Céline Alvarez. Les enfants adorent les mots compliqués.
Mais oui.
Plus on leur dit...
Ils comprennent,
mais c'est ça. Mais ils adorent parce que justement, ça excite leur intelligence. Exactement. Et qu'ils vont chercher à comprendre et que ça va créer des petits chemins neurologiques très 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 stimulants pour eux. Et donc, c'est pas du tout abscon pour eux à apprendre un nouveau mot. C'est quelque chose qui est très stimulant et tout ça. Et donc oui, t'as raison. C'est un excellent exemple. Le fait qu'on réécrive et qu'aujourd'hui, les livres pour enfants. Enfin moi parfois. Effectivement, parfois j'achète des vieilles éditions effectivement de Flammarion et tout ça. Même pour les tout-petits, parce que ça va pas chercher loin, quoi.
C'est assez...
Et c'est un bon exemple, c'est un excellent exemple, effectivement. C'est très dommage.
Autre thème que j'aimerais aborder rapidement, c'est celui du travail. Dans le livre, le travail est un asservissement. Page 92, allez. Le travail avait en partie cette fonction, abrutissant, aliénant, douloureux, épanouissant, qu'importe, il détournait l'attention. Et détourner l'attention, nous divertir finalement, j'aime bien ce truc-là qui me reste de mes cours de philo, le monde tente de nous divertir de notre funeste destin, qui est celui de mourir, et c'est ça qui est raconté à un moment du livre. Et dans une société où le travail, finalement, est une denrée rare, on arrive à détourner les gens de la mort, vous le découvrirez en lisant le livre, mais c'est vrai que ce rapport au travail est complètement perverti, il est à la fois un luxe, et quand on ne l'a pas, on est enfermé et donc oui, la question du travail apparaît aussi dans tes autres bouquins, que je n'ai pas lu, je précise, mais j'ai lu une ou deux interviews et tu en parlais, quoi.
J'ai commencé à écrire ce livre sur cette base, c'est-à-dire que je me suis demandé ce que donnerait... Je lisais des trucs sur l'automatisation, etc., et sur le fait que les robots allaient nous mettre au chômage et plus vite qu'on ne croyait, etc. Et puis, je me suis demandé ce que serait une société sans travail, parce qu'une société sans travail, ça voudrait dire une société sans consommation, puisqu'on n'a plus de quoi consommer. Et je me suis dit, tiens, si les gens ne peuvent plus travailler et plus consommer, mais ils deviennent fous. Parce que la vérité, c'est qu'effectivement, ça les maintient dans une espèce de confort... un peu léthargique parfois, et puis parfois dans une grande douleur, mais enfin, en tout cas, ça les détourne de l'idée de la finitude, effectivement, du fait qu'ils vont crever. Ça occupe les mains et la tête. Bon. Et en même temps, ça pouvait être extrêmement intéressant, et j'ai découvert le philosophe André Gorz, que je recommande chaudement à tes auditeurs, qui, lui, a été l'un des premiers à défendre le revenu universel et qui a une approche du travail qui n'est pas du tout celle qui est à l'œuvre dans nos sociétés, à savoir qu'aujourd'hui, le travail est plus ou moins valorisé en fonction de la rémunération qui lui est attachée. Des boulots qui sont essentiels comme les infirmiers, les gens qui s'occupent des vieux dans les maisons de retraite, les gens qui s'occupent des bébés dans les crèches, etc.
Les profs,
tout un tas de métiers absolument essentiels à la bonne marche de la société, mais absolument essentiels, bien plus qu'un trader. Ces gens-là sont déconsidérés, mal payés, précarisés. Et donc, Gorz dit, mais c'est délirant. Enfin, il faut qu'on revalorise ces métiers-là et puis qu'on comprenne que la valeur d'un, Notre travail n'est pas lié juste à l'aspect pécuniaire. Et il dit aussi que on ne devrait pas travailler toute sa vie, que si on a envie de construire sa maison à un moment, la société devrait dire, ok, je comprends, tu as 3 ans pour construire ta maison et tu es payé pour ça. Et donc, bon, ça nécessiterait évidemment une fiscalité complexe, etc. Je ne dis pas que Rome s'est faite en un jour, mais c'est très intéressant de penser le travail plus comme le salariat ou voilà, cette espèce d'aliénation généralisée qui est à l'œuvre aujourd'hui avec toute sa cohorte de souffrance et de burn-out et de bordel parce que le travail a de moins en moins de sens, parce que les tâches sont de plus en plus débiles, parce que les actionnaires sont de plus en plus hystériques, parce qu'ils font un rendement à court terme. Enfin voilà, parce que du coup on n'a pas le temps de poser quoi que ce soit, il faut machin, tu vois, les bilans se font de manière trimestrielle, etc. Et donc le travail aujourd'hui c'est comme ça, cette espèce de fuite en avant, un peu, enfin extrêmement stressante la plupart du temps. Or ça pourrait être, en fait le travail c'est quelque chose qui est censé nous révéler nous-mêmes, qui est censé montrer au monde ce dont on est capable, qui est lié à une espèce de valorisation de soi-même, quoi, et de ses compétences et d'épanouissement. Et c'est de moins en moins le cas. Et donc, je trouvais intéressant d'aller creuser cette notion de travail à l'aune d'une société qui en est dépourvue, où seulement 30% de la population en a encore un, et qui est généralement merdique, quoi, qui est généralement un travail vraiment pas du tout stimulant intellectuellement. Et donc, Bulle, et donc l'héroïne, et la société qu'elle va fonder avec une petite bande de hackers, elle est aussi beaucoup... basé sur cette réflexion sur le travail et sur ce que ça veut dire de travailler de ses mains, de réfléchir à des trucs, que ce soit pas forcément lié à quelqu'un qui te donne de l'argent, ou c'est infantilisant en fait, quelque part, quelqu'un te donne de l'argent, c'est bien, t'as bien travaillé, t'es bien docile. Non, le travail ça peut être autre chose et ça peut être quelque chose de beaucoup plus galvanisant.
Et puis du travail avec une dynamique d'intelligence collective.
Exactement, une vraie collaboration, un truc pas forcé, un truc où il y a une émulation collective, effectivement. Ouais.
Dans le livre, finalement, la sphère politique, elle apparaît pas clairement. On a un système très organisé, on a le secret des affaires qui apparaît, entre guillemets d'ailleurs, à chaque fois, à 2 ou 3 reprises. Donc une société pilotée par la pub, du marketing, voilà. Et justement, c'était un choix de ne pas mettre en scène les acteurs politiques de ce monde-là.
Mais parce que pour moi, ils sont... ils sont insignifiants, c'est-à-dire ils sont à la solde des autres, quoi. Ils sont à la solde de ceux qui ont le pognon, quoi. Donc, et c'est déjà complètement le cas, on ne va pas se mentir. Donc, et c'est de plus en plus le cas, et aujourd'hui, il y a une espèce d'accointance entre la finance et les États qui est franchement toxique pour le bien commun. Donc non, effectivement, je n'ai pas représenté le pouvoir politique en ce que, dans ce livre, ce sont des pantins. En revanche, j'ai un peu plus parlé des manias, des multinationales, etc., qui sont vraiment, eux, aux commandes. Donc non, je n'ai pas représenté le pouvoir politique parce que ça n'en est plus un, en fait.
Voilà. Ouais, je trouvais ça vraiment intéressant, ce choix dans la description de cette
l'escamoté.
Société. Alors, le temps passe très très vite, je vois.
Je suis super bavarde.
Non, mais c'est passionnant, on pourrait en parler des heures. Alors, je le rappelle, La Désobéissante, écrit par Jennifer Murzo, aux éditions Robert Laffont. Un livre qui finit très très bien.
Mais oui, l'idée, c'est vraiment pas du tout d'angoisser le lecteur. Au contraire, moi, j'écris toujours pour... susciter des questionnements chez mon lecteur, ça oui, mais pas du tout pour le paralyser et pour qu'il se sente complètement pris au piège d'un monde qu'il dépasse. Au contraire, l'idée c'est chacun fait partie de ce monde, mais le libre arbitre ça a encore un sens et on peut encore l'exercer.
Ouais. Donc une bonne proposition pour vous, chers auditeurs, vous lisez ce livre et après vous écoutez tous les épisodes de Hashtag 2050.
C'est une très bonne idée.
Et il y a plein de sujets où vous allez, il y a de la résonance.
Ah bon, on va faire la révolution. Hein. Ce livre plus le podcast, c'est bon. Hein. C'est bon, on a la solution, c'est fini.
Exactement.
Plus de problème.
Pour finir cette conversation, Jennifer, je voudrais quand même que l'épisode ressemble un peu aux autres et que formules
alors...
un vœu pour 2050.
Oui, alors j'avais 25 secondes pour y réfléchir et j'avoue que j'ai pas été très inspirée. Un vœu pour 2050.
Regarde, je brode pour te laisser.
Vas-y, ouais, vas-y, merci.
L'issue positive du bouquin, elle n'est pas 2050, c'est justement, la troisième génération.
Ouais. Qu'est-ce que je souhaite pour 2050? Tout bêtement, je souhaite qu'on reste en dessous des 1,5 degrés, c'est pas très compliqué, parce que c'est juste ça, ça va permettre, déjà ça veut dire qu'on aura pris des dispositions réelles et pas seulement on fait semblant de se poudrer un peu de greenwashing partout. Et moi je crois vraiment à un engrenage qui aujourd'hui est un cercle vicieux, mais qui peut s'avérer très vertueux. Et donc, je pense que si on se maintient en dessous des 1,5 degré, ça voudra dire que la société aura déjà pris un chemin plus intéressant. Donc voilà, en dessous des 1,5 degré pour 2050.
Je valide ce vœu.
Merci.
Merci beaucoup.
Mais merci à toi, merci beaucoup.
Il ne vous reste désormais plus qu'une chose à faire, vous rendre au plus vite chez votre libraire préféré, La Désobéissante vous y attend. J'espère que ce shoot de futur vous a fait le plus grand bien et n'hésitez pas à le partager avec vos voisins, votre famille, vos collègues, vos amis. Allez sur iTunes pour me laisser des étoiles et surtout votre avis sur ce podcast. La prochaine dose de futur arrive très vite, la semaine prochaine. D'ici là, soyons toujours curieux.